Voilà, donc je passe la parole à Jean-Paul Nunez et donc lui qui partir des thèses
Donc
de
je
Pomerol.
vais effectivement vous parler des thèses de Pomerol, et puis après éventuel clivage que ça aurait pu procurer, sans savoir forcément ce que veut dire le mot clivage. Je ne suis pas suisse, mais j'ai une difficulté par rapport à ça, mais on en reparlera, peu importe. En tout cas, c'est un texte qui a été élaboré il y a 70 ans, à quelques jours près, c'était le 16 et 17 septembre, dans ce petit village des Bouches-du-Rhône. Moi, j'ai toujours tenu, étant à la CIMADE depuis longtemps, j'ai toujours tenu ce document comme un moment fondamental de l'histoire de ce mouvement, du mouvement de la CIMADE. C'est vrai que c'est Madeleine Barrot qui disait que ce document les avait accompagnés longtemps, même après la guerre, et que c'était vraiment un texte de référence. Alors, au point que d'ailleurs, à une époque, je pensais qu'il suffirait de les réactualiser, de les sortir un peu de leur contexte, pour à nouveau avoir un peu une référence, un texte d'engouement, un texte qui pourrait, disons, aller de l'avant. Mais au fond, je me suis rendu compte que c'était moins ce texte qui était important que la démarche qui avait amené à son élaboration. Et c'est donc, dans un premier temps, je vais le situer dans le contexte, parce que je sais que pour certains, ce n'est pas évident. Je vais après, justement, parler de cette démarche, et puis je vais essayer de voir ce que ça pourrait vouloir dire pour aujourd'hui. Alors, bon, je ne suis pas historien, mais je suis quand même obligé de faire un peu ce survol. Le contexte, c'est d'abord trois dates importantes, hein. C'est le premier statut des Juifs en octobre 40, c'est la création donc du commissariat aux questions juives en mars 41, et c'est le deuxième statut des Juifs en juin 41. Alors le premier statut des Juifs entraîna un débat à l'automne 40 au sein de l'Église protestante, hein, au sein du Conseil national de l'ERF. Un échange entre Marc Bergner et les présidents de la zone sud. C'est vrai que beaucoup de gens attendaient de la part de l'Église une parole forte, une réaction très affirmée auprès du gouvernement, et ça ne venait pas. Bon, le pasteur Bergner, on le sait, préférait, lui, une plus grande réserve. Il considérait que des interventions auprès de certaines personnalités étaient plus efficaces. Et même s'il y a eu l'épisode de la lettre au grand rabbin qui fut rendue publique un peu par dénonciation, un peu à contrario, hein, mais enfin, elle a été rendue publique, et lettre qui était très importante parce que c'était un des premiers gestes en faveur de défense des Juifs de la part des églises chrétiennes de France. Alors, même si aujourd'hui cette position, cette attitude peut nous paraître sans ambiguïté, il est clair qu'à l'époque, plusieurs dans le monde protestant estimaient que ce n'était pas assez vigoureux, les gens attendaient une réponse plus forte, comparable un peu à ce qui se faisait ailleurs, comparable aux églises protestantes hollandaises. Et d'autant que, justement, par rapport aux deux références que je citais, ils étaient alarmés par la création, le commissariat aux questions juives et le second statut des Juifs. Je crois que cet état d'esprit n'est pas étranger à la réunion de Pomerol. Alors, deux personnes semblent être à l'origine de cette rencontre. Madeleine Barrot, qui était secrétaire générale de la CIMADE. La CIMADE était déjà présente dans les camps d'internement de Vichy, dans la zone sud, confrontée quotidiennement donc à la situation scandaleuse des personnes qui s'y trouvaient, des étrangers, des apatrides et des juifs. Et déjà, il y avait une réflexion qui émanait de la souffrance qui était là et de l'angoisse par rapport à l'avenir de toutes ces personnes. L'autre personne, c'est William Weserstoft, qui était donc l'ancien secrétaire général de la FUAS, qui
La Fédération universelle des associations chrétiennes
chrétienne
d'étudiants.
d'étudiants, qui était depuis 38 président du Conseil œcuménique des Églises. Et justement, de par ce passé, il avait beaucoup d'amis dans le mouvement post-fédératif français, en particulier à Lyon, à Nîmes, à Montpellier. Et justement, comme il connaissait bien les Français, il prenait au sérieux le mythe pétain. et la séduction qu'il entraînait, la séduction du vainqueur de Verdun. Et il se demandait à juste titre si l'Église de France serait capable d'avoir une prédication fidèle et si elle serait capable de résister au contexte qui était là. Alors, lorsque Weisserstoft et Barrot ont invité laïcs et... C'est laïcs, là, ils étaient 16, et laïcs et pasteurs à venir à Pomerol, ils se connaissaient, ils étaient tous un peu sur les mêmes... position, défiance à l'égard du gouvernement de Vichy. Ils n'avaient pas de mandat. Ils ont mené une réflexion spontanée à destination des membres de l'Église, leur seule compétence étant finalement leur compétence théologique, accompagnée bien sûr de textes circulés à l'époque, en particulier les deux lettres de Barthes qui ont effectivement, qui étaient, je crois, finalement un document très 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 diffusé. Le projet des thèses est clairement indiqué dans son préambule. Hein. Il s'agit de rechercher ensemble ce que l'Église doit dire aujourd'hui au monde. Alors, c'est vrai que certainement chez certains rédacteurs ou certaines personnes présentes là, je pense à Georges Casalis, hein, qui a été un des présents à Pomerol, il y avait certainement l'idée d'arriver à la constitution d'une église confessante, un peu à l'image des églises hollandaises, des églises norvégiennes. En tout cas, la forme qu'ont pris après, à la fin, les thèses, sous forme justement de paragraphes avec des citations bibliques et tout ça, je crois que ça y fait une référence explicite. Un seul thème parcourt, je dirais, les thèses, c'est les rapports de l'Église et de l'État, ainsi que la légitimité d'une parole publique de l'Église. Alors, pour faire très vite, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les thèses, mais la thèse 1, elle rappelle Barmen complètement, avec le fondement christologique et avec une référence à l'universalité. La thèse 2 affirme la responsabilité de toute l'Église en tant que communauté de juger, de parler et d'agir chaque fois que dans une société donnée, c'est nécessaire. Ou en tout cas, quand les commandements de Dieu sont en cause. La thèse 3, elle explicite pratiquement les modalités de cette responsabilité de cette Église, de l'Église. La thème 4 défend la précédence de l'éthique sur le politique. Et les trois dernières le placent dans le contexte très particulier dans lequel on était à l'époque. C'est ainsi que la thèse 5, elle affirme les limites de l'obéissance à l'État. La 6 rappelle que le respect des libertés essentielles de l'être humain doit être garanti par un État juste, avec des références là très fortes, des références bibliques très fortes. Et les deux dernières thèses, traitent de l'antisémitisme et de la collaboration. La thèse 7 élève une protestation solennelle contre le statut rejetant les Juifs hors de la communauté humaine. Et c'est intéressant parce que, au fond, c'était la première, ou en tout cas la seule condamnation publique faite par des chrétiens du second statut des Juifs, avant que les cahiers de témoignages chrétiens dont je vais parler le fassent dans quelques semaines après. Enfin, l'appel de la dernière thèse, qui est très explicite, c'est la résistance à toute influence totalitaire et idolâtre considérée comme une nécessité spirituelle. Alors, la portée de ce texte fut immédiate, alors, tout simplement parce que dès le lendemain, le 18 septembre, il y avait un congrès de la post-fédé dans le même lieu, à Pomerol. Donc là, il y avait 86 participants qui, effectivement, se sont imprégnés de ce texte, puisque certains rédacteurs sont restés à ce congrès. Weisserstoft, lorsqu'il est retourné à Genève, l'a diffusé dans le service communique de presse, SOPI, du mois d'octobre, en français et en anglais. Le synode régional d'Annecy, suite à un rapport du pasteur Westphal, s'en est emparé et en a fait un sujet de discussion. Par la suite, d'ailleurs, le Conseil national va communiquer ses thèses, donc au tout début 42, à l'ensemble des présidents.
Le Conseil national de l'Église réformée de France, pas le Conseil national de la résistance.
Le Conseil national de l'Église réformée. Oui, d'accord.
Non, mais
le Conseil national de la résistance n'existait pas.
Encore, voilà.
Voilà. Ce sera envoyé à l'ensemble de tous les présidents de conseils régionaux. Voilà, pour faire bref, bon, il y a d'autres anecdotes, mais peu importe. Au demeurant, ce qui est sûr, c'est que ça donna pas naissance à une église confessante. Par contre, et c'est sur ce point que je tiens à insister aujourd'hui, elles sont à l'origine de la résistance spirituelle d'un grand nombre, et elles vont devenir la trame de réflexion et de l'action des mouvements de jeunesse et de beaucoup de chrétiens. Ce que je dis là à propos des thèses, nous pourrions le dire avec la même force pour l'initiative qui va naître 6 semaines après du père Chaillet, un jésuite, et de ses amis, dans la création des cahiers clandestins de témoignages chrétiens en novembre 81, et d'ailleurs, en 41, pardon, novembre 41, et d'ailleurs, le sous-titre, non pas des cahiers, mais des courriers qui suivit les cahiers, c'était « Lien du front de résistance spirituelle contre l'hitlérisme ». Alors, les deux initiatives que je rapproche, et je pense qu'on peut les rapprocher, des thèses et des cahiers, sont des prototypes et des archétypes de la résistance spirituelle. Je vais dire ce qui était entendu par là. Alors chacun à leur façon, hein, ont surdonné à cette expression une portée historique qui a dépassé de loin la seule conjoncture de la période de la guerre. Et les deux initiatives sont encore aujourd'hui des modèles et des références d'ordre intemporel par rapport à cette notion de résistance spirituelle. Derrière ce... Bon... Le combat à mener, impliqué, pour citer d'ailleurs un des premiers, le premier des cahiers de témoignages chrétiens, c'était d'éliminer toute complicité dans la pensée, dans les jugements et dans la conduite avec le système de valeurs qui nous pervertit en nous enlevant notre âme. Donc effectivement, ce texte, on pourrait le dire aujourd'hui, il est d'actualité. C'est pour cela que je pense qu'au-delà de l'histoire des thèses de Pomerol, au-delà de leur contenu, qui est fondamental, c'est par rapport au contexte, je crois que c'est la démarche qui a mené à la résistance spirituelle qu'il nous faut prendre en compte. Alors, au départ, l'idée était simple dans le contexte de l'époque. Dans un pays anesthésié, j'insiste sur ce mot, anesthésié, par l'effondrement de 40 et soumis aux prédications, excusez-moi du terme, mais je pense qu'on peut dire ça, résigné d'un vieux maréchal, la priorité consistait non seulement à mettre en garde les chrétiens, mais aussi l'ensemble des Français contre le danger mortel que représentait l'idéologie nazie et le nazisme. En face d'un système d'oppression totalitaire, menaçant à la fois par sa doctrine et par son action, le premier impératif était de porter témoignage des valeurs spirituelles tant chrétiennes qu'humaines. Alors, l'engagement de ces chrétiens, qu'on retrouve donc très bien dans la ligne dans les thèses, c'était un refus déterminé de ne pas céder à l'emprise d'une idéologie sur les consciences, une exigence de vérité et de justice dans un monde amuré par la propagande, le mensonge, l'ignorance volontaire et le silence complice, et enfin la conviction que rien de ce qui touche au sort de l'homme n'est étranger aux chrétiens. Alors, cette démarche s'est accompagnée de cibles et objectifs très précis, qui étaient à combattre. D'abord le racisme, bien sûr, avec son refus de reconnaître à chaque être humain une même nature et une même dignité, avec son culte du sang et de la force, avec son mépris et sa volonté d'élimination des juifs. En deuxième lieu, la religion du surhomme, incarnée par le modèle de l'Arien, appelé à dominer le monde en imposant sa loi supérieure. Et troisièmement, la violence barbare, exercée au détriment des faibles, dont le sort est de subir la loi d'un peuple supérieur. La violence barbare exercée au détriment des faibles, dont le sort est de subir...
Je dis, sans vouloir être barbare, il te reste 3-4 minutes, quoi.
D'accord, mais pas de problème. Alors, si la résistance spirituelle avait une mission et un sens, comme nous l'enseignent les thèses, c'était de s'opposer au totalitarisme, non, point, par l'action militaire, mais par des armes intérieures. Ce qui n'empêchait pas de s'investir dans du temporel. Alors aujourd'hui, je fais un saut, je pense que dans le contexte actuel, un contexte où il y a à nouveau des idolâtries modernes, on pourrait reprendre les trois cibles objectifs et les poser sous forme de questions. Pensons-nous que le racisme, avec son refus de reconnaître à chaque être humain une même nature, une même dignité, a disparu de l'actualité ? Ne sommes-nous pas anesthésiés à notre tour par la religion d'une forme de surhomme incarnée par le modèle du démocrate occidental appelé à dominer le monde en imposant la loi supérieure du marché ? Avons-nous éradiqué la violence exercée au détriment des faibles, qui s'exprime non seulement par des guerriers impérialistes, mais aussi par des dérèglements climatiques dont on est responsable, ou des catastrophes écologiques ? Alors ces questions se posent avec beaucoup d'acuité, il me semble. Et je crois qu'aujourd'hui, notre problème, c'est au fond l'obligation dans laquelle on nous oblige à nous situer d'un côté ou de l'autre, de façon machiavélique. On nous dit, ben voilà, il n'y a pas d'alternative. Soit vous êtes pour la bougie ou le nucléaire, soit vous êtes pour l'ouverture ou la fermeture des frontières, soit vous êtes pour la guerre ou pour la dictature, etc. On s'aperçoit, et je vais pas rentrer dans les détails, mais la guerre en Libye pourrait être un très bon exemple, où on nous a dit soit dictature, soit la guerre est nécessaire, mal nécessaire. C'est même d'ailleurs ce que publiait Politis dans un de ses numéros. Et l'idée, c'est d'aller, comme si c'était quelque chose de transcendant, on va installer la démocratie. On va là-bas pour la démocratie, parce que c'est quelque chose de vertueux, etc. Je crois qu'au fond, on doit faire un pas de côté, parce que si on reste dans ces clivages, et là j'ai un peu employé le mot clivage, ou être dans l'un ou dans l'autre, jamais, à aucun moment, on ne peut faire entendre... à un moment donné, on est bloqué. C'est pour ça que je parle de faire un pas de côté. Je crois que pour nous, chrétiens, ne pas prendre parti, c'est le contraire du désengagement ou de l'indifférence. Et c'est là où tout prend tout le sens de la démarche des gens de Pomerol ou de ceux de témoignages chrétiens qui, au fond, tout en dénonçant un certain nombre de choses, ont réussi à un moment donné à donner du sens, à être, on va dire, par une attitude, à passer au-dessus à un moment donné d'un contexte et de perdurer après dans un certain temps, tout un certain temps, pour donner de force, finalement, à cette notion. Je crois qu'il faut, nous, la revitaliser et la réactiver. En tout cas, au-delà de... Et je finis là-dessus. Hein, au-delà de... Je ne sais pas, je dis ça aujourd'hui, ici, dans cette réunion, mais pour moi, c'est évident que dans un mouvement, par exemple, comme la CIMAD, je crois que ça doit redevenir une référence et qu'on doit reprendre les choses, non pas... sur simplement l'étranger parmi nous, etc., mais reavoir un souffle qui doit être plus fort parce qu'on doit sortir de l'anesthésie dans laquelle on se trouve ou de l'envoûtement dans laquelle on nous a placés.
Merci. On pourra questionner Jean-Paul tout à l'heure parce que, en fait, j'ai juste noté tout à coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dit ? Il a dit... Finalement, ne pas prendre parti. Alors, effectivement, on a compris que c'était pas prendre parti, pas se situer dans les clivages qui nous sont proposés, mais peut-être...
Je répondrai tout clairement là-dessus.
Mais je crois que c'était un... merci en tout cas d'avoir posé les questions comme ça.